Édouard Estonnier, Solitude, troisième nouvelle, Les Geoffrelins. On aurait tort de conclure de ce qui précède que la solitude résulte de circonstances exceptionnelles. Qu'on en prononce le nom devant le premier venu, n'est-on pas assuré en effet de réveiller l'écho d'une souffrance vécue ? Il n'est personne qui, à un instant donné, n'ait subi la redoutable atteinte du mal. C'est donc qu'on trouve à sa racine un fait d'ordre universel, une de ces réactions permanentes, souterraines et anonymes, à défaut desquelles l'existence suspendrait son cours. À quelle raison profonde doit-on de connaître la solitude, quelle que soit la situation, l'heure ou le bruit ? Pourquoi même, à ces minutes les plus heureuses, l'homme conserve-t-il la cruelle assurance de son isolement ? Je me suis longtemps posé en vain la question. Mais un jour est venu où la réponse me fut donnée, jour douloureux dont j'hésite à retracer le détail. Je me demande cependant si, en commençant ces récits, j'ai cherché autre chose qu'un prétexte à l'évoquer. Le plus souvent, l'âme gagne de biais le but de son voyage. On a l'air de flâner, et tout de même on arrive. Puisque ce souvenir m'obsède, il faut se décider à le contempler en face. Il y perdra, je le souhaite, une partie de son amertume, et mieux que les aventures de Mademoiselle Gauche ou les Champelles, montrera quelle trame de solitude se cache sous le dessin fantaisiste des destinées humaines. J'ai eu pour ami Pierre Geoffrelin. Notre amitié était venue sans la chercher, parce que nos familles, fort liées, nous avaient réunis d'office. Gamins, nous avons joué ensemble. Camarades de classe, nous attendîmes sur les mêmes bancs et avec une égale impatience l'heure qui nous rendrait la liberté. Enfin, le baccalauréat nous apporta simultanément des affres et des satisfactions pareilles. Affre puérile, pauvre satisfaction. Mais on ne mesure les unes et les autres qu'à sa propre expérience, et l'absolu n'existe pas en matière de sentiments. Il en a été de cette amitié, comme de la plupart des amitiés d'enfance. Le début est délicieux et d'une telle spontanéité que l'on nie pouvoir se quitter jamais. Que de fois, ainsi, Pierre et moi avons fait le projet d'occupation commune et de vie parallèle. Puis, les années passent, les cerveaux, comme les visages, accusent leur forme définitive. On se prend à douter peu à peu de la parité charmante qui séduisait. Enfin, la passerelle qui servait à se rejoindre et ne fléchissait jamais sous le poids de l'enfant, cède sous celui de l'homme. L'amitié file au fond du trou. Elle ne laisse après elle qu'une bonne camaraderie et la mémoire d'un temps où l'on a cru se comprendre sans s'être jamais pénétré. Pierre et moi étions trop dissemblables pour échapper à une telle demi-rupture, même si elle n'eût pas été de règle avec de faibles différences. Sentimental au point d'en paraître violent, nerveux et susceptible comme une femme, abusant de l'analyse et penché sur lui-même sans se soucier du reste de l'univers, Pierre était héréditairement voué à la vie rêveuse, aux projets jamais réalisés et aux amours successifs, quoique toujours sincères. Au contraire, j'ai hérité d'un goût prononcé pour les faits et mon enthousiasme de physicien n'a rien de commun avec les élans d'un poète. Si l'on ajoute une disproportion singulière dans les fortunes, l'obligation pour moi de gagner ma vie et la certitude chez Pierre de ne jamais manquer de revenus considérables, on ne sera surpris que d'une chose, c'est qu'après la 20e année, nous ayons encore échangé quelques lettres et gardé, à défaut de sentiments très vifs, le désir de ne pas tout à fait perdre contact. Ceci dura jusqu'aux approches de la trentaine. Il n'y avait aucune raison pour y rien changer, mais un incident imprévu survint qui desserra des liens déjà si lâches. En 1905, Pierre se maria, et le hasard voulut que sa fiancée fût ma cousine Germaine. J'assistai au mariage, qui fut banal et somptueux. Je rapportai l'impression que Pierre était follement épris de sa femme et qu'elle le lui rendrait. Après quoi, la vie de chacun reprit son cours. Le nombre des ménages catalogués à l'état civil s'était simplement accru d'une unité. Toutefois, Pierre cessa de m'écrire. Je sus qu'il s'était installé à la campagne et ne m'étonnais pas outre mesure de sa négligence. N'étions-nous pas désormais des parents? 5 années encore s'écoulèrent. Un matin de mai 1911, j'eus la surprise de reconnaître sur une enveloppe l'écriture de Pierre. Et voici la lettre que je lus. Cher, on ne serait pas comme nous de vieux amis s'il fallait s'excuser d'un silence gardé ou d'une requête importune. Il est d'ailleurs bien vrai que j'ai eu le tort de te négliger et ai revêtu un air d'oubli qui, avec tout autre, m'empêcherait de continuer. La franchise de l'aveu m'aide à passer outre et à courir droit au fait. Peux-tu prendre le train et venir séjourner quelque temps dans une maison où ta présence est désirée? Si oui, n'hésite pas à boucler ta valise et à partir pour Lugrin, village très villageois, bien qu'il soit proche d'Évian. Tu seras reçu par le printemps un ciel limpide et des amis reconnaissants. Post-scriptum. Inutile d'ajouter que j'escompte une réponse affirmative. Elle sera, comme ma demande, la meilleure preuve que nous n'avons jamais cessé de compter l'un sur l'autre. À bientôt. Chacun sait que le post-scriptum contient toujours l'essentiel d'une lettre. Celui-ci avait un air impératif qui me donna fort à penser. Sans que cela fût dit, mais à n'en point douter, il y avait à l'appel de Pierre une raison grave. Après avoir hésité entre diverses hypothèses, il me parut que le plus simple était d'accorder ce qu'on me demandait. En conséquence, et bien que je fusse fort occupé, je décidai de partir. 48 heures après, je débarquais à Lugrin. Pierre et sa femme m'attendaient sur le quai. Tous deux eurent à ma vue un élan qui ne pouvait tromper. « Qu'il est gentil à vous de venir tout de suite, » dit Arlette, renonçant à notre habituel tutoiement, sans que je comprisse trop pourquoi. « Oh, tu ne pouvais être plus agréable, » continua Pierre. Et je sentis qu'il me serrait les mains avec une chaleur inaccoutumée. Pour te récompenser, la nature s'est mise en frais de printemps. Mais viens d'abord au logis. Encore 5 minutes d'auto et nous y serons. L'auto partit à grande allure, et comme l'air qui nous occupait la figure arrêtait toute envie de parler, nous en profitâmes pour nous examiner avec la clairvoyance involontaire dont on use chaque fois qu'on retrouve des visages familiers après une longue absence. Arlette, demeurée charmante, avait maigri. Pierre, les traits fatigués, le teint plus pâle que de coutume, me parut aussi un peu vieilli. Pour le reste, peu de changements. Pierre avait gardé son sourire et sa nonchalance distinguée. De même, avec ses cheveux noirs, son profil régulier et sa peau mate sous laquelle on voyait le sang courir, Arlette continuait d'évoquer l'image d'un fruit de plein air, robuste et sain. Rien de factice dans ses mouvements. On devinait son goût naturel pour les routes sans détour et sa haine des analyses vaines. Bref, l'opposé de Pierre, ce qui expliquait qu'il l'eût aimé. S'aimaient-ils encore ou autant à cela? Comment répondre? Pourtant, l'amour possède un rayonnement indéfinissable qui provoque aisément de la gêne. Il est sûr que, venu parce qu'on me l'avait demandé et à peine entière avec eux, j'avais déjà le sentiment d'être de trop. « Mais te voici chez toi, » dit Pierre gentiment, tandis que l'auto nous arrêtait devant le perron. La maison, de style savoyard et flanquée de tours carrées, me paraît avoir grand air. Cependant, elle manquait de gaieté. Trop de murs épais, pas assez d'ouverture, enfin, je ne sais quoi d'humide et de solennel qui glaçait. On me conduisit à ma chambre, et je fus laissé libre de procéder à une toilette d'autant plus nécessaire que j'avais voyagé une partie de la nuit. « Quand cela te chantera, » dit Pierre en me quittant, « tu n'auras qu'à me rejoindre sous le châtaignier que voici. » L'heure de la toilette est entre toutes propice aux réflexions. Tandis que le corps se livre à une série de mouvements fastidieux et en ordre immuable, l'esprit court la prétentaine et suit sa fantaisie. « Mais pourquoi m'a-t-on fait venir ?» me demandai-je cette fois, avec d'autant plus d'insistance que je me sentais arrivé. Une question d'intérêt paraissait improbable. Alors, des troubles dans le ménage ? J'avais cru deviner qu'Arlette et Pierre s'aimaient toujours. Restait qu'ils eussent tout simplement désiré se distraire après un long tête-à-tête. Mais qu'on m'eût choisi pour un pareil office semblait au moins bizarre. La maison, enfin, me frappait de plus en plus par sa tristesse. Mais comment ont-ils accepté d'y vivre 5 ans sans recevoir personne ? Murmurai-je. À peine y suis-je arrivé que j'étouffe comme dans une prison. Trop d'humidité, je le répète, trop de silence. Il est vrai que c'était chose normale avec de pareils murs et que mes oreilles bourdonnaient encore du bruit de Paris. D'ailleurs, dès qu'on approchait de la fenêtre, la mélancolie s'envolait. Aussi joyeux que la demeure était morne, le paysage m'éblouit. Une fête, avait dit Pierre. Oh, il ne se trompait pas. La fête de mai que, si rarement, les gens des villes ont l'occasion d'apercevoir. Partout des branches neuves et des bouquets blancs que le soir commençant teintaient de pourpre. Le lac de ce côté était invisible, mais devant moi, le village se promenait à travers des vergers. Au-dessus de lui, des prés escaladaient le revers de la Dandoche. Comme pour mieux recueillir la lumière, la terre avait l'air de gonfler sa poitrine. Alors, la fatigue du voyage avait dû me disposer mal tout à l'heure. Il y avait place ici pour du bonheur et de la gaieté. On avait nul besoin de moi pour être heureux. Et puisque je souhaitais savoir ce qu'on me voulait, le mieux serait encore d'interroger. Plantant là le paysage et rêverie, je rejoignis Pierre dans l'allée qui m'avait désigné. Il y était seul et paraissait m'attendre avec une réelle impatience. « Eh bien, » demandai-je sans autre préambule, « puisque nous sommes seuls, vas-tu me dire la raison pour laquelle tu désirais tant que je vinsse ?» Il répondit, paisible, « l'envie de te voir. » « Bien entendu. » J'avais cru comprendre toutefois au ton de ta lettre. Il m'interrompit. Oh, de grâce, regarde-toi de me faire concurrence en cherchant l'impondérable là où il n'existe pas. Je murmurai, sans cesser pourtant d'être sceptique. Alors, voilà qui est parfait, et je n'ai plus qu'à te remercier. Il m'est agréable de penser que malgré ton bonheur, tu n'as pas remisé au grenier notre vieille affection. Il désigna les arbres qui nous couvraient de leur ombre. Comme elles, chaque hiver, on les croit morts, chaque printemps les fait revivre. Je continuai. Et pour vous, le printemps n'ayant jamais cessé, mais il m'arrêta encore. Mais aurais-tu pris, depuis que nous nous voyons, plus mes manies poétiques? En ce cas, que ce qui est sous tes yeux suffise à te satisfaire? N'est-ce pas d'ailleurs un adorable pays? Et il ne s'occupa plus que de me détailler l'horizon. Il avait l'air d'étaler devant moi la campagne. Il n'eût pas montré autrement un tapis rare découvert dans une brocante. Tout en l'écoutant, je me sentais de nouveau gagné par une mélancolie sans cause. Était-ce le bruit des feuilles diluant dans leur musique continue les phrases de pierre? La lumière qui mourait? J'imaginais que les châtaigniers, imitant la demeure, gardaient sous leur écorce trop de fraîcheur. En dépit du vert naissant, les branches avaient pris l'aspect fripé d'un lendemain d'orage. Les pommiers blancs étaient devenus livides. Tu ne sembles pas de mon avis, dit Pierre, surpris de mon silence. J'ai froid, répondis-je, réprimant avec peine un frisson. Alors rentrons, d'ailleurs on sonne le dîner. Nous regagnâmes la maison sans rien ajouter. Le repas, comme on pouvait s'y attendre, fut très cordial. Avec Arlette, je dus faire le tour de la famille et des relations communes. Elle aussi paraissait courir, sans se soucier du passé qu'elle interrogeait, et avec le seul désir de jeter des paroles à travers la pièce. Après quoi, la conversation vagabonda. Pierre, tout le premier, lançant la meute sur la piste. Peu à peu, d'ailleurs, nous nous sentions les uns et les autres repris par l'attrait des souvenirs communs. Vieilles histoires de collège, gamineries d'antan, lorsque Arlette était pour moi la première cousine. Qui, dans sa 12e année, n'a pas dressé dans le sanctuaire encore inviolé de son cœur un autel provisoire à la première cousine? À mesure, j'oubliais l'accueil morose de la demeure. Je cessais aussi de me demander pourquoi j'étais venu. Au salon où de grosses bûches flambaient, j'achevais de perdre ma contrainte. Décidément, on se trouvait bien ici. Quelle atmosphère paisible! Qu'Arlette et Pierre se soient oubliés dans une telle retraite ne m'étonnait plus. Pour les amants véritables, le bruit extérieur est une gêne. Il doit être délicieux d'en être séparé par des murs épais. J'en étais à goûter ces impressions reposantes quand un détour inattendu de la conversation me rendit subitement à la crainte d'être dupe d'apparence. Entraîné par la suggestion de bien-être qui m'enveloppait, je venais de dire à Pierre. Sais-tu que je vous envie d'avoir que votre tendresse et ce pays pour horizon doit être une part privilégiée? Oh, répliqua Pierre avec vivacité, non, tu hâtes pas trop de la célébrer. J'ai adoré la campagne, mais il y a beau temps que je ne l'aime plus. Mais quelle plaisanterie, m'écriai-je étonné. Il suffisait de t'écouter avant dîner pour être certain du contraire. Non, je ne plaisante pas. Toutefois, ce que je ressens est difficile à comprendre, comme tout ce qui répond à un sentiment profond. Arlette, qui avait écouté jusque-là sans mot dire, approcha de son mari. Explique, fit-elle. En même temps, l'inquiétude soudaine qui altérait ses traits me frappa. Pierre haussa les épaules et affectant de ne s'adresser qu'à moi. La campagne me lasse parce qu'elle change trop, parce qu'en me levant chaque matin, je suis sûr de ne plus rien trouver comme la veille. Il y a des gens pour opposer la terre toujours pareille à la ville toujours changeante. Quelle sottise! Ta rue a-t-elle quelquefois modifié son visage? À Paris, avez-vous d'autres saisons que celle créée artificiellement par la température uniforme de vos serres? Ici, autant de jours, autant d'aspects. une vie mouvante qui échappe aux prévisions, gaie quand on a envie de pleurer, triste quand on souhaiterait rire, et impossible d'y échapper. La nature vous plante, sa griffe au cou, et on doit obéir. Alors répondras-tu pourquoi rester, mon cher, parce qu'ailleurs ce serait pareil. Où trouver dans le monde une chose vraiment stable ? Il se leva, fit le tour de la pièce, et revenant à la cheminée, « Tout évolue, c'est la loi, et tout s'altère, voilà le but. » Une pause suivit. Arlette continuait d'examiner son mari avec l'attention concentrée que j'avais remarquée dès le début. « Tu assurais jadis que l'amour est stable ?» murmura-t-elle d'une voix sourde. Pierre fixa les yeux sur elle, puis avec un nouveau et imperceptible mouvement d'épaule, « La mort l'est aussi !» Un silence acheva de souligner la gravité du mot, vraiment dépaysé dans une heure d'intimité où tout parlait de vivre. « Image romantique, pensais-je. Mais dans ce cas, pourquoi le trouble d'Arlette ? Pourquoi son désir évident de répondre, auquel succédait presque aussitôt la décision découragée de ne point parler ? Après une minute d'attente incertaine, je la vis en effet se diriger vers une des croisées, et là, le front à la vitre, s'absorber dans la feinte contemplation des lumières qui chaque soir ourlent la rive du Léman, de Lausanne à Villeneuve. J'allais la rejoindre. « Et que vous compte ces lampions ?» demandai-je avec une insouciance affectée. Elle répondit d'un ton absent. « Qu'ils brillent trop, présage de vent pour demain. »« Vous aimez le vent ?»« Beaucoup. » »« On doit être ici aux premières loges. » pour écouter sa musique. Oui, on est libre de se croire en mer sur un bateau dont la voilure craque. Et en parlant ainsi, elle n'avait pas cessé d'observer Pierre à la dérobée. Comment le trouves-tu ? Poursuivit-elle brusquement et à voix basse. Du coup, je sentis son angoisse devenir mienne. Pour m'interroger ainsi, pour qu'elle en revînt au tutoiement de jadis, ne fallait-il pas qu'un péril planât sur tous ? Bien que sa tête restât comme avant appuyée contre la vitre, je rencontrai ensuite ses yeux qui avaient cherché les miens. Cela suffit pour que j'eusse l'intuition que non seulement elle se cachait de Pierre, mais qu'elle se défiait de moi. Avait-elle donc peur que je ne fusse déjà de connivence avec lui ? Comment le trouves-tu ? Je n'eus pas le loisir de répondre. Pierre, probablement aux aguets, beaucoup plus que je ne le supposais, s'approchait de moi et mettant sa main sur mon épaule. « Que dit-elle ? » Tout de suite en garde, je répliquai de l'air le plus naturel. « Je suis invité à aller me coucher. »« Déjà ? » ?»« Il paraît que j'ai peu dormi la nuit dernière et que cela s'aperçoit. » Pierre, indécis, fit le geste vague de l'homme qui se résigne à ne pas insister. « S'il en est ainsi, pourquoi tant de façon ? Il n'y a qu'à regagner ta chambre. » « Nous allons t'accompagner. »« C'est cela, » reprit Arlette vivement. « D'ailleurs, il est tard, 10 heures déjà. » Et nous montâmes tous les trois. Suivirent les propos confus qui sont l'accompagnement rituel d'une installation de ce genre. « Avez-vous bien tout ce qu'il vous faut ?» demandait Arlette. « Demain matin, chocolat, thé ou café ?» interrogeait Pierre. On se serra les mains, on se souhaita bonne nuit. Enfin, la porte se referma. M'asseyant dans un fauteuil, je réfléchis. On a peine à décrire les mouvements de l'âme auxquels la logique n'a point de part. Sans doute et plus qu'avant, je brûlais de savoir pourquoi j'étais venu, à quelles complications je me heurterais le lendemain, enfin, quelles raisons mystérieuses commandaient la frayeur d'Arlette et la réserve de Pierre. Cependant, ce n'était pas cela qui me tenait immobile. En revanche, maintenant que les bruits d'alentour s'étaient tus, dans la pénombre où me laissait un plafonnier isolé au centre d'une pièce trop vaste, enveloppé aussi par l'odeur moisie des lieux inhabités, je devenais la proie d'une tristesse bizarre. Il me semblait avoir été emporté loin de chez moi par une force hostile et inconnue. Je me sentais dans un désert et j'étais seul. Seul, voilà bien le mot qui résume ce que j'éprouvais alors. Seul au point d'en éprouver un malaise physique. Seul à douter si j'étais éveillé ou la victime d'un rêve. Je me demandais, mais qu'est-ce qui me prend? Mais pourquoi suis-je ainsi? Mais j'avais conscience en même temps que ce que je subissais ne dépendait pas de moi. C'était la maison, le lieu, l'heure qui faisait de moi une chose abandonnée. Je me rappelais qu'un certain soir de solitude chez moi, il m'était arrivé de souhaiter éperdument un coup de sonnette, l'arrivée inopinée de n'importe qui, fût-ce un passant qui se trompe. Ici, rien de pareil. Le moindre craquement de meubles m'aurait arraché un cri. Je descendais dans du silence. Au bout d'un long moment, je me décidai enfin à l'effort de vaincre ma torpeur. Comme je n'avais aucune velléité de sommeil, je me levai et ouvris ma fenêtre. Dehors régnait une ombre farouche. Terre et ciel avaient cessé d'être distincts. Au ras du sol comme au zénith, des feux dessinaient des figures inquiétantes sans qu'on pût savoir si elles étaient formées par les astres ou les lampes du village. Le jardin mettait au pied de la maison une tache noire qui avait l'air de l'isoler comme une douve. Soudain, une voix s'éleva. « Comment, encore debout? Pour un homme si fatigué, tu me sembles bien un peu pressé. » Pierre. Oh, se promenait-il dehors pour son plaisir ou pour me surveiller? Bah, j'ai fait comme toi. Il est agréable de bailler aux étoiles, mais l'heure vient de tirer ses volets. Alors bonsoir, bonsoir. Je tendis ensuite les rideaux pour cacher la lumière. Chose singulière, je ne songeais plus à ma solitude. Il me semblait qu'en s'éloignant dans la nuit, Pierre venait de l'emporter avec lui. Le lendemain, je n'attendis pas qu'Arlette et Pierre fussent levés. M'étant éveillé de grand matin, je résolus d'aller me promener dans la campagne, excellente méthode pour dissiper le malaise qui me restait de la soirée. Après avoir traversé le village, je partis au hasard. Il suffit presque toujours d'approcher vraiment de la nature pour en subir l'action pacifiante et saine. Très vite, au milieu des champs, on redevient clairvoyant, cependant que les soucis reprennent leurs dimensions humaines. 2 heures de vagabondage à travers les vergers me rendirent aussi pareil à eux. Au retour, mon impression de solitude s'était dissipée, et l'avenir avait cessé de m'inquiéter. Je ne pensais plus qu'au beau soleil en train de fondre la neige des branches fleuries, quand, près du village, j'aperçus Arlette assise au pied d'un châtaignier. J'en éprouvais un mélange de plaisir et d'ennui. J'étais à la fois satisfait de l'occasion qui me permettrait de déchiffrer les énigmes de la veille et mécontent de me heurter de nouveau à des pensées que la promenade avait dissipée. Sitôt qu'elle m'eut reconnu, Arlette se leva et s'empressa de me rejoindre. « Bonjour, dit-elle, je t'attendais. » Décidément, dès que nous étions seuls, elle revenait au tutoiement. Je fus aussi frappé de l'air qu'elle avait. Rien ne subsistait de son calme habituel. On devinait que, si elle s'exprimait encore d'une voix égale, c'était le résultat d'un effort et que, livrée à elle son seul instinct, elle eût laissé paraître une extrême surexcitation. Elle poursuivit. « Reprends son chemin, d'abord. Ici, on risque d'être surpris. » Le mot m'étonna. « Peste ! » m'écriai-je. « Craindrais-tu les gendarmes et que se passe-t-il ? » Elle répliqua. « Tout et rien. Je compte précisément sur toi pour m'aider à le savoir. » En même temps, elle m'entraînait. Suivant son désir, nous avions tourné le dos au village et nous marchions très vite. Je répétais, « Mais t'aider, volontiers, mais comment ?»« Comment, si je pouvais le dire ?» Un instant, elle demeura silencieuse. Il semblait qu'après avoir voulu me parler, elle hésitait au dernier moment à se livrer sans réserve, puis tout à coup. Eh bien, la vérité est que j'ai peur, une peur atroce, sans raison définissable, qui ne me quitte pas, qui ne me trompe pas surtout. Peur, mais de quoi ? Elle resta silencieuse. Je repris de plus en plus intrigué. Serait-ce par hasard, excuse-moi si je deviens indiscret. Pour te secourir, comme tu le souhaites, il faut bien accepter que je le sois. Serait-ce que Pierre ne t'aime plus ? Elle répliqua presque avec violence. « Non, pas cela. Il m'aime toujours autant. Trop, peut-être. » Voilà bien le dernier grief auquel je me serais attendu, fis-je déconcerté. Une impatience d'être comprise parut sur son visage tourmenté. S'il m'aimait moins pourtant, il est probable que lui et moi échapperions aux complications à travers lesquelles ma tranquillité a disparu. J'insistais. « Mais de quelles complications veux-tu parler ? » ?»« Si j'eusse été capable de les préciser, je ne te consulterais pas. » »« Mais encore, que Pierre ne soit plus le même, tu l'as vu tout de suite. Ce qu'il est devenu et pourquoi cela, j'ai beau le chercher, je ne l'aperçois pas. Quelle imagination le hante ! D'où vient que je ne rencontre plus jamais ses yeux et qu'au contraire, il me regarde dès qu'il ne se croit plus observé. Elle fronça les sourcils. Il y a des heures, en vérité, où je me sens accusé de je ne sais quelle infidélité, où une odeur de soupçon m'étouffe. Il semble qu'entre nous, un autre se soit glissé, dont je ne peux déchiffrer le visage, et qui, cependant, nous sépare à un autre dont la présence arrête les mots sur mes lèvres pour me rendre maladroite ou inutilement irritable, et qu'il écoute, lui, sans lassitude. Encore une fois, que suppose Pierre ? Quel raconteur inepte nourrisse son inquiétude ? À moi, il ne le dira jamais, à toi, peut-être, confesse-le. Qui sait si tu ne nous aideras pas ainsi à échapper à une crise que je pressens de nature à détruire tout bonheur. Quel grand mot, murmurai-je songeur. Laisse-moi craindre à mon tour que tu ne sois victime du même excès d'imagination dont tu accuses Pierre. Et en tout cas, s'il n'a pas d'autres éclaircissements à me donner, je crains bien que tu ne m'aies appelé pour rien. Elle m'interrompit vivement. Oh, détrompe-toi. « Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, c'est lui. »« Pierre ? » répétai-je surpris. « Alors que me veut-il ? » ?»« Je n'en ai aucune idée, et cela surtout m'effraie. » D'un commun accord, nous venions de nous arrêter. Nous regardions à terre comme s'il y avait eu à y chercher un objet perdu. Le corps fait le geste même, quand l'âme prétend s'occuper seule pour son compte. Je repris. Cela surtout, encore des mots excessifs. Notre amitié suffit à justifier son initiative. Et d'ailleurs, n'espères-tu pas en profiter ? » Elle hésita. « C'est que... Mais parle donc. Je le crois jaloux de toi. » Pierre, jaloux de moi, mais à quel propos ? Mais tu fais partie de ma jeunesse. Il lui en veut, comme au présent, plus peut-être. Et si c'était vrai, m'aurait-il fait venir ? Et s'il n'avait cherché qu'à vérifier ses doutes, en nous ayant tous deux à sa portée ? Parlons, nous sommes en pleine folie. En pleine folie, oui, c'est là justement ce que je n'osais exprimer. Arlette, tu ne penses pas ce que tu dis. Hélas. Je la regardais atterrée et plus inquiet pour elle, cette fois que pour Pierre. Arlette, repris-je, prends garde. Il y a des mots dont il vaut mieux ne jamais prononcer le nom. On risque trop de les attirer sur soi. Elle se recueillit avant de répondre. « Oh, je me doutais bien que tu ne me croirais pas. Mais qu'importe, l'essentiel est de te prévenir. Pour le reste, à la grâce des événements, rentrons maintenant. Ou je me trompe fort, ou il se préoccupe déjà de savoir où nous sommes. Il en serait là. L'avenir montrera si j'ai tort. Allez, viens. » Déjà, elle tournait bride. Je dus l'imiter. En silence et d'un pas plus rapide encore qu'à l'aller, nous refîmes la route charmante que nous avions suivie sans la regarder. Alentour, c'était toujours le pur matin. Des arbres ployés sous leur charge de fleurs. Les vergers riaient. N'irais-je cependant que je continuais à ne pas les apercevoir? Trop de pensées contradictoires roulaient dans ma tête. Je songeais, mais qu'y a-t-il de réel au fond des terreurs d'Arlette ? Et je me demandais aussi, qui sait si Pierre à son tour ne va pas m'interroger sur Arlette ? Et ceci me frappait encore, qu'Arlette, tout en se plaignant d'être soupçonnée, s'était gardée jalousement de laisser paraître la nature de ses soupçons. Avec quel soin elle avait eu ce qui lui était personnel ? Car pour la jalousie de Pierre à mon égard, je ne parvenais pas à la prendre au sérieux. Tout à coup, j'entendis qu'Arlette murmurait « Regarde !» L'avais-je prévu ? Pierre, en effet, venait de paraître, avançant à notre rencontre. Quelle que fût ma surprise, je haussai les épaules. Simple coïncidence, le hasard en provoque tous les jours. Elle m'interrompit. Retiens-moi ce que je t'ai confié, qu'il n'y a plus de hasard maintenant, pour nous. Disait-elle vrai ? En tout cas, rien ne décelait chez Pierre une inquiétude ou un ennui. Ce fut d'une voix cordiale, le plus simplement du monde, qu'il s'enquit de notre promenade, entendit Arlette m'inviter à la poursuivre avec lui, cependant qu'elle-même rentrerait à la maison où je ne sais quelle raison la rappelait sans délai. « Puisqu'il en est ainsi, dit-il, dirigeons-nous vers le lac. De ce côté, on ne rencontre jamais personne. Nous pourrons bavarder à notre guise. »« Volontiers. » Et je repartis, seul à seul, ayant changé que Pierre avait pris la place d'Arlette, et qu'après la femme, j'allais écouter le mari. Nous demeurâmes sans parler un long moment. Nous avions l'air de ne nous occuper de rien, sinon du printemps, des parfums et de la lumière qui nous escortait. Ce fut Pierre ensuite qui commença. « Avez-vous pu ce matin bavarder à votre guise ? » demanda-t-il. L'accent était détaché, neutre. Impossible de deviner s'il s'agissait d'une question banale ou d'un fait auquel il attachait de l'importance. « Non, répliquai-je à tout risque. Oh, nous nous sommes retrouvés que tout à l'heure et Arlette avait hâte de rentrer. »« Ah, vraiment ?» Je crus surprendre un peu d'ironie dans le ton, mais je ne m'y arrêtais pas. Déjà une bonhomie lasse reparaissait dans la suite de la phrase. Après tout, il est naturel, Karl et toi, soyez content de vous retrouver. 5 ans déjà, depuis votre mariage, que de nouveautés en 5 ans, et que de confidences on en ramène. Ici encore une incertitude. Libre à moi de prendre les derniers mots pour un banal constat ou d'y trouver une invite à m'expliquer au sujet des confidences déjà reçues. « Mon Dieu, murmurai-je, je n'ai jamais eu qualité pour être admis à la confiance d'Arlette. Toutefois, le peu que j'ai pu entrevoir de votre vie au cours de notre rapide entretien m'a donné à penser. Arlette s'est plainte de moi. » En même temps, les yeux de Pierre se posèrent sur les miens avec une extraordinaire dureté. Je crus qu'il allait s'emporter. Nouvelle surprise. Ce fut au contraire une phrase découragée qui suivit. D'ailleurs, elle a peut-être raison. Juste ou non, tous les griefs s'équivalent dès lors qu'il faut souffrir. La souffrance est le seul fait qui compte, parce que seul on ne peut le mettre en doute. Arlette ne se plaint pas, fis-je très posément. Mais elle s'inquiète, et il me semble qu'elle n'a pas tort, puisque je suis tenté de l'imiter. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Toi. Mais à quel propos de grâce? C'est toi qui vas me le dire, en m'avouant ce que tu attends de ma venue. Eh, mon cher, je t'ai déjà répondu hier, à d'autres, pour être certain qu'il y a autre chose. Il me suffit de chercher ton regard. Il eut un geste nerveux. Non, ne complique pas inutilement ce qui est simple. J'avais envie de toi, c'est tout. Non, non, non. Sois sincère et découvre entièrement ta vraie pensée. En effet, oui, je puis ajouter beaucoup d'autres motifs à mon désir. Mettons que le moins amical est qu'en séjournant ici en ce moment, tu me rendras service. Arlette d'ailleurs partage mon opinion, si j'en juge à l'air de plaisir que lui donne ta présence. Il affectait en vain un ton léger, mais sa voix tremblait. Irrésistiblement, cette fois, le souvenir de la jalousie ridicule qu'Arlette supposait en lui traversa ma pensée. Je ne pus retenir un peu d'irritation. « Mais ta femme n'est pas en cause, » déclarai-je sèchement. Il eut un sourire bizarre. « Plus que tu ne te l'imagines, attendons l'avenir. » « Mais quel avenir ?» Ses lèvres frémirent. « Cela, je te le dirai plus tard. Oui, plus tard. Probablement demain. »« Mais pourquoi pas tout de suite ?» Ah non! Ce fut prononcé violemment, bien que tout bas. On aurait cru, à sa pâleur soudaine, que l'évocation du lendemain déclenchait en lui une inexplicable terreur. Pierre, m'écriai-je, comment ne pas m'inquiéter? Tu me caches déjà plus qu'il y en a en toi, mystère douloureux. Il tourna la tête vers moi. Un mystère! Parbleu, qui n'a pas le sien, où compose son regard, on se heurte à du mystère. Pour n'en plus trouver, il faudrait que tous les cœurs vivants eussent cessé de battre. Je répliquai, mais le tien t'étouffe. Et, lui prenant la main, je ne sens rien qu'à ta fièvre. Il se dégagea rudement. Assez, je ne me plains pas. De quel droit prétends-tu en savoir plus? Nous venions d'atteindre la berge du lac. De la main, il montra l'horizon. Ce décor dans les yeux, voilà le présent. Tais-toi et jouissons-en. Amen. Il avisa ensuite une place dans un pré et s'assit. Il faisait comme il lisait. Il m'avait oublié et contemplait l'espace ouvert en face de lui. Sûr désormais qu'il serait inutile d'insister, je l'imitais. Spectacle inoubliable. Devant nous l'eau bleue, sur nos têtes un ciel de lait, sur la rive un bruit de caresse et la lèvre mouvante d'un océan calme baisant le gravier. Le Jura, coiffé de brume, n'était pas visible. Des mouettes volaient ici et là. À chaque battement d'ailes dans l'air doré répandait une lueur sur la vague prochaine. Après quoi, l'oiseau partit, le fleuve reprenait son apparence de mort et le fjord sa lumière uniforme. « Est-ce à ton goût ?» demanda soudain Pierre. « Si oui, alors ne réponds pas, imite-moi. Jouis du moment qui passe et attends en paix ce qui doit venir. Surtout, rappelle-toi ce que je disais hier. La beauté de cette heure ne reviendra plus jamais. Oh quoi, déjà midi, Arlette doit s'inquiéter et, je le reconnais à juste titre, bah, tant pis. Encore un instant, n'est-ce pas ? On aurait dit qu'à ce moment, il tentait de faire entrer dans ses yeux toute la splendeur du jour qu'il célébrait. Son visage respirait la ferveur du communiant. Malgré moi, j'étais aussi triste que si j'assistais à un adieu. « Allons-nous-en, » fit-il enfin. Et nous revînmes à la maison. Il avait repris son expression indifférente. Je l'escortais en silence. Que ce fût avec le mari ou à la femme, la matinée ne m'avait rien appris. Cependant, ma curiosité avait disparu. À mon tour, je n'avais plus envie d'interroger. Je ne doutais plus qu'il y eût un mystère, mais j'avais peur de le connaître, et disais maintenant, comme Pierre, « Demain, attendons à demain. » Le déjeuner fut morne, en dépit de la gaieté que nous affections. Pierre ne mangeait que du bout des lèvres. Nous parlions de même, c'est-à-dire que, nous exprimant avec volubilité, nous avions l'air de penser à autre chose. Heureusement, au jardin, le café, les cigarettes et le prétexte de savourer l'air délicieux nous permirent de nous taire. Ce fut une trêve. Après quoi, Arlette se dirigeait vers le perron pour nous laisser en tête à tête quand Pierre la rappela. « Arlette, j'oubliais, cet après-midi, j'irai à Meillery. » « Dois-je commander l'auto ?»« Non, non. Tu prends le train ?»« Ma bicyclette, le temps est charmant. »« Et à quelle heure entreras-tu ?»« Je ne sais. Pourquoi ?» Pour que nous puissions aller à ta rencontre. Gardez-vous-en, c'est un rendez-vous d'affaires qui m'attend. On ignore toujours quand cela finit. Aucune raison spéciale n'existait pour m'obliger à suivre de tels propos. Cependant, je ne pus m'empêcher de remarquer l'hésitation de Pierre. Il avait une manière de laisser tomber les mots, un par un, qui contrastait violemment avec leur ton désinvolte. « À quelle heure ton départ ?» reprit Arlette, sans parvenir à cacher un peu d'humeur. « Tout de suite. Emmène-moi Revel. Meillery l'intéressera. Bon, qu'y ferait-il tout un après-midi ?» Pierre se tourna vers moi. « Tu ne m'en veux pas de te lâcher ?» Je répondis en souriant. « Non, pas du tout. » Alors, très simplement, Pierre s'approcha d'Arlette et l'embrassant sur le front. « Adieu !» elle répliqua distraite. « À ce soir !» Quand il eut disparu dans la maison, Pierre regarda quelques instants le jardin avec une attention particulière. Puis il parut se décider, alla chercher sa bicyclette et revenu avec elle. « Allons, fit-il, il est temps. » Il me tendit la main. « Ah, ce soir, dis-je à mon tour machinalement. » Mais il gardait ma main dans la sienne. « Ah, pendant que j'y pense, qu'on ne se trouble pas si je rentre assez tard. »« Tu seras bien là pour le dîner. »« Oh, c'est pas certain, d'autant que si le vent est favorable, peut-être ferai-je le retour en barque. »« Quelle idée !»« Excellent, tu n'imagines pas l'agrément d'aller sur un lac où tout fait silence et dans la nuit. » Il me parut vouloir ajouter autre chose, mais dut y renoncer. « Adieu, acheva-t-il vivement, occupe-toi d'Arlette. Il me semble qu'elle devient nerveuse, c'est mauvais. » Il remonta ensuite d'un pas vif l'allée des châtaigniers. J'entendis un bruit de grelots, je ne le vis plus. L'après-midi commença, lent et vide. Depuis mes entretiens du matin, je n'avais pas cessé de me sentir mal à l'aise. Le temps de liberté que me ménageaient mes hôtes était d'autant moins propice à me remettre que je devenais la proie de nouvelles pensées singulières. Après avoir trouvé naturel que Pierre partît pour ses affaires, je m'étonnais maintenant qu'il n'eût pas choisi un autre jour. Il était curieux qu'il eût caché jusqu'au dernier moment une obligation si gênante. Curieux encore qu'il eût repoussé avec tant d'honnêteté l'offre d'Arlette de nous rendre sa rencontre. Autour de moi, pourtant, quelle sérénité! À peine si de rares vols d'insectes agitaient l'air. Derrière ma chaise, une corbeille de pivoine exhalait une odeur de musc capiteuse et fine. Un peu plus loin, des seringas épandaient leur parfum plus grossier. La terre tiède et voluptueuse semblait boire du soleil. Il y avait ainsi un désaccord total entre ma disposition morose et l'extérieur, précisément celui dont Pierre se plaignait la veille, avec tant d'âpreté. Comme j'ai compris alors l'irritation qu'il lui donnait. J'en étais là quand Arlette se montra un instant sur le perron. « Pourquoi ne vas-tu pas faire un tour ?» me demanda-t-elle. « Tu sembles mourir d'ennui. »« Bonne idée, m'écriai-je. Allez, viens avec moi. » Mais je vis aussitôt son visage se fermer. « Non, » dit-elle. « Alors, dans ce cas, l'affaire est conclue. Je ne bouge pas. »« Tu as tort. Serait-ce parce que Pierre pourrait rentrer avant toi ? Il n'y verrait pas de mal, et même au contraire. » « Mais que crois-tu donc ?»« Rien, je me demande, je ne sais pas. » Mais à scruter l'expression lointaine de son regard, il n'était pas difficile de lire que, si elle aussi avait trouvé anormal l'absence de Pierre, elle croyait bien en connaître le motif. Je me remis à errer, solitaire, à travers le jardin. « Serait-ce Arlette qui a raison ?» me demandai-je à mon tour. Si Pierre était vraiment jaloux. En effet, ceci paraissait plausible qu'il n'eût imaginé son voyage à Meillery que pour revenir à l'improviste et nous surprendre. Mais le plausible n'est pas nécessairement le vrai. Je jugeais le piège sans finesse, indigne de Pierre. J'allais plus loin. Admettons la jalousie dont j'avais ri d'abord. Une sorte d'instinct m'avertissait qu'à ce moment, il serait absurde de s'y arrêter. Non, Pierre devrait s'occuper d'autre chose, dont ni Arlette ni moi n'avions le soupçon. Vers le soir, j'en étais encore au même point, quand je ne sais quelle fringale me prit de quitter les allées où j'étais là de promener mon tourment. Bien convaincu qu'Arlette s'obstinerait à ne pas m'accompagner, je me décidai à sortir et, par les mêmes sentiers que le matin, gagnai la campagne. Avec l'heure, quel changement! Le lac était devenu gris, les prés noirs, noirs aussi les châtaigniers, cependant qu'autour d'eux l'ombre tombait glaciale. Une mélancolie extraordinaire émanait de la terre qui semblait grelotter sous la brume du soir. Je marchais depuis assez longtemps, quand le vent, qui jusqu'alors soufflait à peine, grossit d'une manière aussi soudaine qu'inattendue. Qui sait la rapidité avec laquelle le temps se transforme dans la région du Léman? En moins de 10 minutes, je me trouvais en pleine bourrasque, n'apercevant autour de moi que des arbres couchés et un lac furieux. Des feuilles volaient, mêlées à la poussière et à l'embrun arraché aux vagues. On était à la lettre, aveuglé et porté par la rafale. Aussitôt, je me rappelais le projet de retour en barque annoncé par Pierre. L'avait-il exécuté ou, prévoyant la tempête, y aurait-il renoncé à temps? Ensuite, une peur bête s'empara de moi, d'autant plus irrésistible qu'elle m'interdisait de raisonner. Il était évident que Pierre devait connaître à merveille les fantaisies du lac, qui, même parti, il n'avait pas dû s'éloigner de la côte. Dès lors, rien de plus aisé que d'y trouver un abri. Bref, tous les motifs du monde pour ne pas croire à un danger possible. Cependant, je rebroussais chemin en toute hâte et, à peine arrivé, interpellai le domestique. « Monsieur est-il rentré ?» Ce fut Arlette qui répondit, mais depuis le salon. « Non, pas encore, je pense qu'il ne tardera guère. »« Sauf s'il a voulu revenir par le lac. » Elle se dressa. « Quelle idée, il ne le fait jamais. Et d'ailleurs, il a pris sa bicyclette. » Son émoi était si violent que je n'eus pas le courage d'expliquer ce que je savais. Au fait, je n'y pensais plus. Toutefois, voici une averse qui l'obligera sans doute à s'arrêter en cours de route. Bon, c'est un grain qui passe, cela ne durera pas. Et nous sourîmes tous les deux avec un air entendu et parfaitement rassurés. Nous étions déjà en train de nous jouer la comédie, mais pour rien au monde nous n'aurions exprimé la singulière impression qui donnait à nos paroles une couleur chimérique. De quel nom désigner ces mystérieux avertissements de la conscience, après lesquels l'imprévu est accueilli comme un fait connu depuis longtemps? Ainsi, près de la fenêtre, nous regardâmes la pluie tomber. Assaillant les vitres, elle semblait vouloir prendre la maison d'assaut. La musique lugubre du vent disparaissait dans son fracas. Bien qu'il ne fût pas plus de 6 heures, la nuit avait envahi le salon et c'est à peine si nous distinguions la tache claire de nos visages. Absorbés par une égale inquiétude, nous échangeâmes de loin en loin des réflexions quelconques sur Lausanne, le temps, les vagues, le tout sur un ton cérémonieux à cause des domestiques qui pouvaient venir. En réalité, nous ne nous occupions que de la marche de la pendule. « Bientôt 7 heures, » dit enfin Arlette. « Mais la pluie cesse, vous avez raison, » répondis-je. « Il doit probablement repartir. » « N'en doutez pas. Toutefois, l'ondée se dirige vers Meillery. L'accalmie ne commencera que plus tard de son côté. » Non, les nuages vont vers Genève. Alors, c'est lui qui doit être en avance sur nos prévisions, il n'est pas loin. Et si j'envoyais l'auto, à quoi bon? Vous avez entendu, comme il recommandait qu'on ne le fît pas. Soit. L'idée d'Arlette était raisonnable, ma réponse absurde. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je me demande comment nous avons pu ainsi nous résigner à continuer d'attendre. Je n'y vois qu'une explication. C'est que, déjà prévenus intérieurement de ce qui était arrivé, nous saisissions tout prétexte pour retarder le moment où il faudrait le réaliser. Un long temps encore passa. Arlette se leva, fit un tour dans la pièce obscure, puis s'arrêtant devant la pendule, 8 heures, il serait temps de se mettre à table. Je répondis en m'efforçant de rire. Bonne idée, oh, cela suffit en général pour faire paraître le convive en retard. Arlette sonna. Je vais dire conserve. Elle eut ensuite un haussement d'épaules découragé. N'est-ce pas stupide? J'avais imaginé qu'à peine parti il reviendrait. Et pour toute autre chose, oui, maintenant je regrette de n'avoir pas eu raison. Au même instant, la lumière jaillit. Le domestique, appelé, venait de tourner le bouton de l'électricité. Je ne pus retenir un cri. « Arlette, que crains-tu ? » « Et toi ?»« Ah, maintenant qu'on voyait clair comme m'en dissimulait encore l'angoisse qui nous tenaillait. Sans l'apparition soudaine de la lumière, peut-être aurions-nous eu le temps de composer nos traits. Trop tard, nos armes s'étaient découvertes. Nous avions vu. » Alors, se tournant vers le domestique, Arlette jeta « L'auto, tout de suite !» Puis me regardant, « Il y a plus de 2 heures que j'aurais dû m'y décider. » Je voulus répliquer « Mais tu as tort de t'affoler. » Mais elle m'interrompit « Alors donc, depuis que tu es rentré, tu meurs de la même anxiété. » « Non, je te jure, tu dois parler du lac. Quel projet t'a-t-il confié avant de partir ?»« Bon, rien que de très vague, qu'il reviendrait peut-être en barque. » Et c'est à Maillery qu'il se rendait ?
Oui.
Soit, bien à Maillery, nous saurons ce qu'il a fait. Oh, nous le rencontrerons auparavant. Elle jeta vers moi un regard étrange. À moins qu'il n'ait été ailleurs. Déjà, l'auto ronflait devant le perron. Nous partîmes sans ajouter un mot. Puisque la lumière nous avait révélé l'un à l'autre, à quoi bon mentir ? Nous n'avions plus qu'à communier dans la peur. À quoi bon parler ? Tes paroles n'auraient servi qu'à nous décourager et nous humions d'avance une telle odeur de souffrance que nous avions besoin de rester forts. Ce que furent après cela notre course, nos recherches, j'ai peine à le retrouver aujourd'hui. Suivant une loi plus générale qu'on ne l'imagine, le dénouement a effacé tout ce qui l'a immédiatement précédé. Je revois très bien les heures d'attente que je viens de décrire. Les suivantes, certainement plus chargées de fièvre et de faits, sont à peu près mortes dans ma mémoire. De cette période suprême, voici ce que je retrouve. D'abord, une nouvelle rafale dans la nuit. Nous sommes en route. Nous allons contre le vent, nous volons et tout vole alentour, les arbres valsent, la haie se dérobe, les maisons fuient. Une seule chose a l'air d'échapper au cyclone, et c'est, projetée par les phares, la grande nappe de clarté qui nous précède. Encore parce que le chemin tourne, parce que nous-mêmes évitons une ornière, a-t-elle de brusques soubresauts. Ses bords frémissent, déchirent, escaladent une banquette, sont mordus par un fossé. Puis le rectangle s'égalise et la plaque lumineuse gît de nouveau, immobile en apparence, pareil à un tapis. C'est ensuite à Maillery une descente affolée jusqu'au port, où il n'y a personne, où, solitaires, les caravelles s'entrechoquent avec des gémissements d'oiseaux de nuit. On cherche les patrons des barques. Nous heurtons à des portes de taudis. Chaque fois, nous jetons la même question. « Un monsieur est-il parti en bateau cet après-midi ?»« Oui, répondent les uns. Non, affirment d'autres. » Tous se contredisent. Tout aussi est contradictoire, l'heure, le signalement. Il est possible que Pierre soit revenu par le lac. Possible qu'il n'en soit rien. Mais est-il seulement venu à Maillery ? Le notaire n'en sait rien, ni le buraliste, ni la receveuse des postes. Et s'il était à la gare, bien sagement, attendant le passage du dernier train ? Hélas, la gare est vide. Alors, un nouvel ordre bref. « Retournons à Lugrin, » dit Arlette. Sa certitude est absolue. Pierre a dû aller ailleurs qu'à Maillery. Il n'y a qu'à découvrir cet ailleurs. Un apaisement suit. Nous avons le vent arrière. Il galope sans parvenir à nous rejoindre. On pourrait croire que nous n'avançons pas tant l'air est calme. Du coup, la fraîcheur a disparu. Avons-nous à ce moment discuté un plan de recherche? C'est probable. Toujours est-il qu'à peine sommes-nous rentrés, chacun repart dans la bourrasque. Le jardinier suivra la berge du lac, le valet de chambre se dirige vers Évian, l'auto vers le bout du lac et Lausanne au besoin. Je demande à Arlette, et nous? Nous, bien, c'est bien simple, nous attendons ici, dans le cas où il reviendrait. Attendre. Nous ne sommes plus capables que de cela. Arlette a raison. Attendons en silence, sans bouger, dans ce salon où la pendule seule s'obstine à respirer avec la même régularité. Encore une vision restée dans ma mémoire. Il est minuit ou peu s'en faut, et tout à coup j'ai l'illusion d'une chute au fond d'un puits de mine. Ce n'est rien, ou plutôt c'est simplement le vent qui tombe. Personne ne revient. Reviendra-t-on avant le matin? J'en doute. Nous n'avons déjà plus l'espoir qu'on retrouvera Pierre, mais une indication de son passage suffirait à nous soulager. Et je remarque l'air hagard d'Arlette, ses pommettes en feu, ses yeux d'agonisante. Je m'approche d'elle, je lui prends les mains, et résolu à me faire obéir, « Monte dans ta chambre !» Elle réplique d'une voix brisée, « À quoi bon ? Mais pour être forte demain !»« Quoi qu'il y ait, je le serai. » »« Oh, on dit cela !»« Ah !» s'écrie-t-elle, « Je ne me leurre pas, je sais bien qu'il est parti. » S'il ne s'agissait que d'un départ, j'ai une autre pensée. Je répète, « Va, je t'appellerai quand il y aura lieu. » Elle cède enfin. C'est tout ce dont je me souviens. Il faut maintenant venir au dénouement, c'est-à-dire à l'aube. Le jour se levait blafard, la face savonnée de brouillard. Le lac, comme une cuve, exhalait une vapeur de glace. On avait envie de claquer des dents. Je m'obstinais à errer dans le jardin, guettant nos gens qui ne venaient pas, qui ne viendraient plus sans doute avant de longues heures. Tout à coup, j'avais songé. Le demain dont parlait Pierre est arrivé. Pourquoi Pierre en aurait-il parlé s'il ne devait pas faire la lumière? En même temps, il m'avait semblé que mon attente cessait, excédé de fatigue ou effet d'imagination. Non seulement j'étais devenu calme, mais je ne doutais pas qu'il me suffit de bien ouvrir les yeux pour sortir d'incertitude. À ce moment précis, je crus distinguer un bruit de roues sur la route. Étant remonté jusqu'à celle-ci, j'aperçus alors une carriole revêtue d'une bâche que menaient deux hommes dont l'un était le jardinier. Une voix cria au fond de moi, « Oh, c'est la fin !» Cependant, je ne bougeais pas. Les hommes n'avaient pas l'air de me reconnaître. Ils approchaient à pas réguliers, sans faire aucun signe. Quand ils furent arrivés près de moi, ils arrêtèrent la carriole. Je ne les interrogeai pas. Je ne fus pas étonné non plus en soulevant la bâche. Avant même que d'y avoir touché, je savais que j'allais apercevoir le cadavre de Pierre affreusement défiguré par la noyade. Je laissai retomber la toile et reconnus à peine ma propre voix. Je disais, « Portez-le au salon, sans bruit, et fermez la porte à clé. Il faut que madame ne le voie jamais ainsi. » J'avais conscience en leur donnant d'accomplir la volonté de Pierre. Il ne m'avait peut-être appelé que pour cela. Mais alors, comment Pierre avait-il pu prévoir? Ici, ma pensée prit l'épouvante d'elle-même. Je chancelais comme un ivrogne. Puis mes yeux s'obscurcirent et, déchirés par une angoisse pire, j'éclatai en sanglots.